crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle série de l'été. Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel, c'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. Le dossier que je voudrais ouvrir avec vous va nous faire côtoyer ensemble l'un des criminels les plus importants du XXe siècle. Ouvrir. Je devrais peut-être dire rouvrir. L'homme qui est au cœur de cette histoire, celui dont la police puis la justice vont se saisir, est devenu un personnage que la plupart d'entre vous connaissent. Au cinéma, à la télévision, dans des romans ou dans des bandes dessinées. Cet homme, ce personnage, c'est Landru. Henri Désiré Landru. Celui qu'on surnommera bientôt le nouveau Barbe Bleue, comme ce personnage du conte de Perrault, riche, qui tue une à une ses épouses, ses sept épouses. Mais laissez-moi d'abord vous emmener dans la France de l'après-guerre. L'après-guerre, je veux dire les années qui suivent la Première Guerre mondiale. Nous sommes en province, comme on dit, mais non loin de Paris, tout près de Versailles. Cette histoire commence dans un village, un bourg, du département des Yvelines, à Gambais, en lisière de la forêt de Rambouillet. Nous sommes au mois de décembre 1918. Voici presque un mois maintenant que l'armistice a été signé, que la guerre a pris fin. Enfin, la France pense ses plaies, Gambais y a échappé aux destructions, aux bombardements, aux obus allemands. Mais Gambais n'a pas échappé aux morts. Combien ils sont, les enfants du village, à être tombés pour la France? Beaucoup. C'est presque toute la jeunesse du village qui a été fauchée. Nous sommes au mois de décembre et peu à peu, lentement, la vie reprend son cours. Enfin plus ou moins parce qu'il y a la grippe. Vous savez, la grippe espagnole. Cette grippe qui fait des ravages dans toute l'Europe et dans le monde. Et en France. Cette grippe qui fait des millions de morts. Beaucoup plus de morts que la guerre elle-même. Nous sommes donc au mois de décembre 1918. C'est le matin. Le début de la matinée. À la mairie. Une grande bâtisse du XVIIIe siècle. Simple, mais vaste. Il fait froid. Le préposé a fait le tour des poêles avec des seaux à charbon. Mais il faut que ça chauffe, que ça se réchauffe. Le maire a gardé son manteau, son chapeau et ses gants. Voilà sa secrétaire qui rentre, un châle sur les épaules. Elle vient déposer le courrier. Il y a une lettre d'une dame de Paris. Elle demande des nouvelles de sa sœur, une dame qui se serait installée avec son fiancé, vous savez, dans la ville latrique à la sortie du village, route de Houdan. Encore ? Mais je ne lui ai pas déjà répondu, non ? La secrétaire sourcille, elle hésite. C'est que, enfin, je crois que ce n'est pas la même dame, monsieur le maire. Il s'en rappelle, le maire. Oui, il lui a répondu à la dame de Paris. Il réfléchit. La maison de la route de Houdan, c'est le joli pavillon, celui de Monsieur Tric. Il le loue. Il ne le loue pas pour des relations galantes, quand même, non. Non, ce n'est pas son genre, ça, au brave Monsieur Tric. Il ne manquerait plus que ça, tiens, se dit le maire. Que Gambais et sa maison de plaisir. Le maire parcourt la lettre. Célestine Buisson. Fiancée à un certain Dupont. Monsieur Dupont. Il lève les yeux. Le garde champêtre vient d'arriver. Il est dans l'encadrement de la porte, la casquette dans les mains. Il est là pour son café, sans doute, comme tous les matins, avant de partir en tournée. Le maire lui fait un signe, le salue. Il reprend sa conversation avec sa secrétaire. Et la première lettre, il s'appelait comment déjà le fiancé ? La secrétaire ouvre l'armoire et en sort un dossier. Le dossier des correspondances. C'est classé, mois par mois. Elle s'en rappelle. Oui, elle s'en rappelle, c'était au mois de novembre. C'était juste avant l'armistice. Ça y est, elle l'a. Elle la parcourt, à la hâte. Frémier, monsieur. Elle dépose les lettres sur le bureau. Le maire de Gombay les relit, l'une, puis l'autre. Il essaie de comprendre. Il rassemble ses idées, plutôt ses questions. Il réfléchit, tout haut. Nous avons deux femmes qui demandent des nouvelles de leur ami. Pas la même. Leur ami est fiancé à un homme, pas le même, et installé toutes les deux à Gombay. Sa secrétaire complète. Dans la même maison. Le garde champêtre se redresse.
Ah, si je peux me permettre, monsieur le maire, si vous voulez parler de la maison de la route de Houdan, il s'y trouve plus personne depuis bien longtemps.
Le maire jette un coup d'œil dans sa direction. Il n'a pas son air habituel, le garde. Il attend dans un coin. Il n'a pas demandé son café, son grand café chaud de tous les matins. Le maire réfléchit encore. Il pourrait envoyer les gendarmes. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils ne vont quand même pas rentrer dans la maison. Ils vont constater que les volets sont clos, c'est tout. Il tend les deux lettres à sa secrétaire.
On va faire ça simplement. Écrivez à l'une et à l'autre, pour qu'elles se mettent en rapport. Je pense que ces dames doivent avoir des choses à se dire. Et suggérez-leur peut-être, s'il s'agit bien du même homme, sous deux identités, de s'adresser à la police, non?
Le maire se tourne vers le garde champêtre pour le prendre à témoin. Il se dandine. Il est nerveux, on dirait. Mais qu'est-ce qu'il a?
Les deux cercueils, monsieur le maire. Ils sont arrivés, ils sont à la gare.
De les deux cercueils? L'espace d'un instant, le maire se demande, et puis ça lui revient. Avec les deux disparus de la route de Houdan, il a la tête ailleurs. Les deux cercueils, ce sont deux enfants du pays qui reviennent. Enfin, ce qu'il en reste, leur corps en morceaux, dans leur caisse en sapin. Ce sont les derniers morts, ceux de la dernière offensive allemande, qui reviennent, des mois plus tard. Ceux qu'on a mis tellement de temps à identifier. Le maire tire sa montre de son gilet. Brusquement, le garde champêtre confirme.
Les familles sont à la gare, on vous attend pour le petit mot, enfin. Comprenez le discours et la gerbe.
Laissons-la Gombay, ses petites rues, son maire, son garde champêtre, sa gare, et ses morts qui reviennent encore. La route de Houdan, et cette ville-là, ce pavillon, où volaient clos. Ce pavillon et ses mystères. Oui, quittons Gombay pour Paris. Nous sommes au mois de mars 1919, soit un peu plus de 3 mois plus tard. Nous sommes dans le 8e arrondissement, rue Grefful, au numéro 3. À 2 pas du boulevard Haussmann, à quelques minutes à pied de l'église de la Madeleine. Nous sommes dans les bureaux de la première brigade mobile, les fameuses brigades du Tigre. Enfin, les bureaux. Ce qu'on entend quand on entre fait penser à autre chose qu'à des bureaux. Ce sont des cris et des coups. Ça vient de la salle de gymnastique et ça fait du bruit. C'est l'heure de l'entraînement. Les inspecteurs s'entraînent à la savate. Ils sont en maillot de corps et dans leurs longs caleçons blancs. Et ça frappe, poings et pieds, et genoux. Et ils transpirent. Enfin, les inspecteurs. Une partie des inspecteurs. Parce qu'il y a ceux qui aiment moins ça et qui parviennent à y échapper. Nous sommes avec l'inspecteur Belin. Il n'est pas en caleçon, il n'est pas en maillot de corps. C'est un intellectuel, Belin. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup dans la salle de gymnastique. Nous sommes dans le bureau du patron, le patron de la première brigade. Et le patron, il recadre ses inspecteurs. C'est comme ça. Surtout Belin, parce qu'il a tendance à aimer les chemins de traverse. Il faut le cadrer, l'inspecteur.
Vous faites du bon travail, Belin. Ne perdez pas votre temps, hein? D'accord, 2 femmes ont disparu. 3, monsieur le commissaire. On en a 3 maintenant. Le maire de Gombay a reçu encore une lettre. Bon, 3, ça ne sont pas des jeunes filles, non? Elles sont majeures, vos disparues, Belin.
Et plus que majeur, on ne va pas courser toutes les dames en quête d'aventure, non ? Vous ne pensez pas qu'on a plusieurs gens ?
Belin, il n'a même pas pu passer dans son bureau. Il revenait juste de la gare Saint-Lazare quand en bas, on lui a dit « Le patron t'attend ». Et ça, ça veut dire qu'il veut vous recadrer en général. Alors on ne traîne pas. Belin est là, debout. Il est encore en par-dessus, son chapeau à la main. Il est là, mais il ne sait pas vraiment quoi dire. Enfin, il ne veut rien dire. Il sait que c'est comme ça. Il faut le laisser parler, le patron.
« Votre nom, on le connaît même au ministère, Belin. Vous avez des états de service remarquables. La brigade sait ce qu'elle vous doit. Ce que vous avez fait pour la bande à Bonneau, l'arrestation de Lacombe... »
Belin a l'air ailleurs. Alors le patron insiste. Il s'impatiente.
« Wow, vous m'entendez, Belin ?»
Belin acquiesce. Enfin, il a l'air d'acquiescer. Mais ce qu'il en pense, il a son idée. C'est un coureur de fond. Ça peut prendre du temps et il prendra son temps. Mais il en est certain. À peu près certain. Célestine Buisson, disparue. Anne Colomb, disparue. Et la troisième, Marie-Thérèse Marchadier, disparue. Pourtant, on a vu, à Gombe, une dame d'un certain âge, soignée, qui promenait ses trois chiens, trois griffons. On ne pouvait pas la rater. Disparue, elle aussi. Il y a quelque chose sous ces disparitions. Il y a au moins le même homme. Les proches, les amis, la famille. Elles décrivent un homme de petite taille, chauve, barbe noire, élégant, aimable. Et quelle manière. Oui, là-dessus, elles sont toutes unanimes.
Oh, c'était un homme tellement prévenant et courtois.
Le patron a terminé. Il laisse Belin repartir. Enfin, presque. Il faut qu'il enfonce le clou, quand même.
Et occupez-vous du dossier de la bande de Belleville, Belin. Il faut que ça avance.
L'inspecteur Belin hausse les épaules. Enfin, une fois la porte fermée.
La première.
Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle de disparitions mystérieuses.
Pas une, pas deux, trois disparitions. Et pas n'importe lesquelles. Trois femmes.
Des dames d'un certain âge dont on perd la trace dans le même pavillon, dans le village de Gambé.
Trois femmes. Toutes fiancées au même homme. Un homme très courtois et galant.
Ces disparitions, on en parle jusqu'à Paris, dans les bureaux de la première brigade mobile.
Un même homme. De ça, l'inspecteur Belin en est persuadé. Ces disparitions sont suspectes. Il les flaire, ces affaires-là. Et une fois qu'il les tient, eh bien, il ne les lâche pas.
L'inspecteur Belin entre dans son bureau. Les bureaux qu'il partage avec un autre inspecteur, Brandon Berger. Il sourit, Brandon Berger. Un demi-sourire. Il est dans la confidence. Alors, cette excursion ?
Belin revient de Rouen. Il n'est pas allé à Rouen pour sa cathédrale ou pour aller manger un canard sauce rouennaise, non. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Normandie ? Il piste le petit homme chauve, barbe noire, si prévenant. Il le piste. Et il le piste encore. Et il fera le tour de la France entière s'il le faut. Du moins, si le patron ne le surveille pas de trop près. La maison de Gambé, la villa de la route de Houdan a été louée à un certain Dupont de Rouen.
Et alors, Belin ? Eh bien, rien trouvé.
Ou plutôt si. Belin a été accueilli par les collègues de la 4e brigade mobile. Ils se sont rendus à l'adresse indiquée, à l'adresse de Dupont. Du Dupont qui a signé pour la villa.
Est-ce qu'il était là, Dupont, avec sa fiancée, avec Anne Colomb ? Ou avec Célestine Buisson, peut-être ?
Non.
Il y avait un concierge. Il y a bien Dupont dans l'immeuble, oui, mais il ne l'a jamais vu. Et le courrier, il le fait réexpédier. Et devinez où ?
Ah ben, je donne ma langue au chat, Belin, voyons.
À Paris, mon vieux.
Ils échangent un regard. Brandon Berger et Belin. Un regard qui en dit long, évidemment. Qui dit, mon vieux Belin, tu te fais mener en bateau.
Ouais, ouais.
Mais Belin complète quand même. Boulevard du Maréchal Ney.
Est-ce qu'il va y aller, Belin? Est-ce qu'il va se rendre au boulevard du Maréchal Ney, au numéro 8, comme a dit le concierge? Bien sûr. Bien sûr qu'il va s'y rendre. Rien de presse. Mais il ira. Oui, parce qu'il faut bien. Parce que c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Ce grand jeu de piste. D'un nom à l'autre. D'une adresse vers l'autre. Il y va et il y est. Au numéro 8. Cet immeuble. Cet immeuble, il le connaît? Bah oui, c'est le domicile de Célestine Buisson. Il est devant le domicile de l'une des disparues. Ah oui. Ah ça, c'est Brandenberger qui va rire, parce que décidément, il se fait mener en bateau. Plus il cherche, plus ça devient obscur. Et plus ça devient obscur, plus il se dit qu'il faut continuer. Oui, mais où? Et comment? Les jours passent, et peut-être que le temps presse. Où chercher désormais? Où se cache l'homme à la barbe noire, élégant? Cet homme que l'on dit si courtois, si prévenant. Bien sûr, ça arrive quand on n'attend plus. 3 jours ont passé. Nous sommes le 11 avril, dans l'après-midi, la fin de l'après-midi. Nous sommes rue Greffule. L'inspecteur Belin vient d'arriver, de revenir de son enquête du côté de Belleville, l'enquête du patron. Il est dans son bureau. Il salue Brandenberger, il enlève son manteau. Et voilà que le téléphone sonne. Il sonne. Bon, enfin, il sonne beaucoup, le téléphone, quand on est inspecteur de police et qu'on a plusieurs dossiers sur le feu. Sauf que ce coup de téléphone-là, l'inspecteur Belin comprend vite qu'il est très important.
Monsieur l'inspecteur, une communication d'une dame Buisson, de Paris, dans le 8e.
Buisson. Pas Célestine Buisson, non. Pas Célestine, mais sa sœur. Elle lui dit quelque chose, mais les mots se précipitent. Il croit avoir entendu, oui, mais il lui demande de répéter. Elle reprend son souffle.
Le fiancé de Célestine, je viens de le croiser, avec une femme, en rue.
Où? Rue de Rivoli. Le petit homme à la barbe noire faisait des courses. Elle l'a aperçu. Il sortait d'une boutique avec une femme. Elle les a suivis pour s'en assurer. Oui, c'est bien lui. Et cette femme? Et si cette femme, ce n'était pas tout simplement une des 3 disparues? Ça pourrait être fini alors, non? Si Célestine Buisson n'avait pas disparu, ni elle, ni les autres, le dossier pourrait se refermer, non? Ce foutu dossier.
Ah non, non, j'en suis certaine, monsieur l'inspecteur, ce n'était pas ma sœur Célestine. Je la reconnaîtrai tout de même.
Mais peut-être l'une des 2 autres. Belin se précipite. Il doit en avoir le cœur net. Il oublie de remettre son manteau et son chapeau. Il descend les escaliers, 4 à 4. Il fait signe à un taxi. Il y sera dans un quart d'heure. Et il y est. Il parvient rue de Rivoli. Les magasins ferment, les uns après les autres. Il y est. Le lion de faïence. Ce sont peut-être des habitués. Le gérant va pouvoir lui donner des renseignements. Peut-être un nom, une adresse. Mais c'est fermé. Déjà fermé. Belin serre les poings, jette un coup d'œil aux alentours. Il avise le premier café, il demande le téléphone, il forme le numéro de la rue Greffule.
Brandenberger?
Oui?
Non, je vous expliquerai, Brandenberger. J'ai besoin d'un nom et d'une adresse. Le nom du gérant d'une boutique, le Lion de Faïence, rue de Rivoli, oui. Oui, son nom et son domicile.
Et il raccroche. Il remercie le cafetier et il s'assied à une table. Il commande un café, il commande un second café. Ça prend du temps, ça prend trop de temps. Il va essayer de s'apaiser, Belin, de reprendre son calme. Il commande à manger. Au menu, il y a du foie de veau persillé, pommes de terre. Ça fera l'affaire. Il attend, il est nerveux. Il passe ses nerfs sur la viande. Il coupe, il mâche, il avale, il boit. Belin est déjà debout. Il prend le téléphone des mains du cafetier. 2-3 mots, juste pour un nom et une adresse. Il paie. Il est parti. Et à nouveau un taxi. C'est tout proche. Rue de Birague. Ça donne sur la rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est vraiment à côté. Voilà, il est devant la porte. La porte s'ouvre
il y a un homme en robe de chambre qui n'a pas l'air content. Mais il n'a pas le choix. Pas vraiment le choix. Et il repart avec Belin pour la rue de Rivoli. Il rouvre sa boutique, l'homme. Il traîne le pas, mais il fait ce qu'on lui demande. Il ouvre son registre. Il doit faire une livraison, oui, en effet. Oui, il s'en rappelle. L'homme, petit, chauve, élégant, barbu. Son doigt suit la ligne dans le registre. Rue Rochechouart, 76. Il n'y a pas une minute à perdre. Belin demande le téléphone. Allô, Brandon Berger ? Rue Rochechouart, 76, dans le 9e. Belin remonte dans le taxi. Direction le 9e arrondissement. On est sur le chemin de Montmartre. Il demande au taxi de le déposer à bonne distance. Il fera le reste à pied. Il doit retrouver son calme. Il doit reprendre ses esprits. Belin respire. Il marche, mais il ne parvient pas à se maîtriser. Il a envie de courir. De l'autre côté, il les aperçoit. Brandon Berger avec deux policiers en uniforme. Il leur fait signe. Les voilà. Il pousse la porte. Il y a la concierge dans sa loge. Belin frappe au carreau. Il montre sa carte de police. Ils sont là. Oui, Belin, Brandon Berger, les policiers, mais la dame, la concierge, elle a l'air embarrassée. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle fait un signe en direction du mur, de l'horloge, une petite horloge murale derrière elle. Belin sort aussitôt sa montre, une montre à gousset de son gilet. Il pâlit.
C'est que je suis désolé, messieurs, mais la loi...
Belin pousse en juron. Brandon Berger lève les yeux vers l'horloge, lui aussi. Il tire sa montre à son tour. Le ciel s'est assombri, brusquement. Le soir tombe. Il est trop tard. Il est passé 9h. Et la loi ? Ils ne peuvent plus rentrer avant le lever du jour, avant 5h. Qu'est-ce qu'il va faire, Belin ? Lui, Brandon Berger ? Et les deux policiers qui les accompagnent ? Est-ce qu'il n'a pas assez cherché, Belin ? Investigué ? Il y croit ? Il sait, il sent qu'il y a quelque chose. C'est là. Il suffit qu'il monte l'escalier, qu'il sonne ou qu'il force la porte. Et ce sera fini. Mais Brandon Berger le retient par le bras.
Pas de bêtises, Belin. Vous le savez bien, si on ne fait pas dans les règles, c'est tout le dossier qui pourrait être perdu. Toute la procédure.
Les deux hommes se regardent. Ils se comprennent. Et s'il leur échappe, une fois de plus ? Belin, sa décision est prise.
Bon, ben, je reste. Je dors ici.
Le lendemain, 12 avril 1919, le soleil va se lever, doucement. Il est bientôt 5h. Belin est réveillé. Il n'a pas vraiment dormi. Il a fermé les yeux, peut-être. Il s'est sans doute assoupi. Il se réajuste, il se prépare. Brandon Berger et les policiers sont de retour. Voilà, il est 5h. Belin regarde ses collègues. Ils sonnent, ils attendent. Il n'y a aucun bruit. Et puis quelque chose. Une porte. Une voix, celle d'un homme. Quelqu'un approche. La porte s'ouvre. Voilà. Voilà, ça va se terminer. L'homme qui le rouvre paraît presque détendu. Il a un air étonné, oui. Il les laisse entrer sans opposer la moindre résistance. Ils entrent. Et voilà, c'est fini. Dans le salon, Belin trouve un portefeuille. Dedans, un permis de conduire. Au nom de Henri Désiré Landru. Les policiers passent tout au peigne fin. Il y a des dossiers, et dessus des noms de femmes, dedans des comptes. L'indication de ses frais, de toutes ses dépenses, une à une. La moindre dépense. Brandon Berger n'en revient pas. Il lève les yeux vers Landru.
Vous êtes un vrai comptable, vous ?
Il y a autre chose. Autre chose qui pourrait les intéresser. L'un des policiers qui les accompagne s'approche de Belin. Il lui présente un petit carnet noir.
Tenez, ça pourrait vous intéresser, inspecteur.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet ? Dans ce petit carnet noir, un petit agenda de poche, en cuir. Il y a une liste de noms. Il y a Lacoste. Il y a Buisson. Il y a Marchadier. Mais il y a aussi d'autres noms. Des prénoms. Il y en a 11. Belin a une pensée, rapide. C'est fini ? Non. Non, peut-être pas. Et si les autres avaient aussi disparu ? Et si ça ne faisait que commencer ?
La première.
Un Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, nous revenons sur un criminel qui est devenu légendaire. Henri-Désiré Landru. L'inspecteur Belin a enfin retrouvé la trace du mystérieux fiancé, le petit homme à la barbe noire. La sœur de l'une des disparues l'a aperçu par hasard, alors qu'il faisait des courses accompagné d'une femme, bien entendu. Landru est arrêté. Dans son appartement, les hommes de la première brigade mettent la main sur des dossiers, des piles de dossiers, avec des comptes, méticuleusement tenus. Et puis, un petit carnet noir, avec des noms et des prénoms. 11. Une liste qui annonce peut-être le pire. L'homme qu'ils ont arrêté, Belin et les autres, ce matin du 12 avril 1919, s'appelle donc Henri Désiré Landru. Belin appelle le quai des Orfèvres. L'identité judiciaire. Ils ont quelque chose sur son Landru.
Ouais, on a une fiche sur votre homme. Une jolie fiche d'ailleurs.
Henri Désiré Landru, 50 ans. Il a été condamné plusieurs fois.
La dernière c'était en 14, 4 ans, condamné par contumace. Il a disparu dans la nature. Ce sont des condamnations pour escroquerie, inspecteur. Des escroqueries et encore des escroqueries. Un spécialiste, on dirait, votre homme.
Des escroqueries et des escroqueries au mariage, entre autres. Landru trouvait ses victimes par des petites annonces matrimoniales dans les journaux. Il les dépouillait puis disparaissait. Sauf que là, ce sont ses victimes qui ont disparu. Belin, Vandenberger, ils vont l'interroger. Et l'interroger encore. Mais Landru, il reste parfaitement maître de lui. Plus que cela. Il ne manque pas d'aplomb ou d'esprit.
« Oh, ce que ces dames sont devenues, mais je n'en sais rien. Nous nous sommes quittés bons amis, et pour le reste, cela ne me regarde pas, inspecteur. »
Et ensuite ? Et ensuite, on va le garder un peu au chaud, le Landru. Ou plutôt, au frais, à la prison de Mantes. Mantes-la-Jolie. Pendant ce temps, Belin a encore du travail, et pas qu'un peu. Et il va où cette fois, l'inspecteur Belin ? À la gare de Lyon, prendre en train direction Gambet. Et si la villa de la route de Houdan avait des secrets à livrer? Dans le même compartiment, à ses côtés, le docteur Paul. Charles Paul, un médecin légiste, mais pas n'importe lequel. Il est de toutes les affaires qui comptent, le docteur Paul. Il a fait l'autopsie de Bonneau, de Jaurès, enfin d'à peu près tous les cadavres des hommes importants de ce début de siècle. Plus tous ceux qui sont moins connus, évidemment. Les cadavres un peu plus ordinaires. Ils sont de bonne humeur, Belin et le docteur Paul. La journée s'annonce agréable. Le train file doucement dans la campagne et il fait beau. Ils sont arrivés. Route de Houdan. C'est un joli pavillon. À 200 ou 300 mètres du village, il y a un jardin. Un jardinet devant la maison, il y a des jonquilles dans les parterres, quelques tulipes. Ça sent bon tout ça. Le maire de Gambet est là, et le garde champêtre. On se salue, on s'échange quelques politesses et puis on se met au travail. Les choses sérieuses vont pouvoir enfin commencer. Les policiers pénètrent dans la maison. Ils vont tout passer au peigne fin, minutieusement. Belin donne des ordres. Et voilà déjà une première découverte, une malle, avec des vêtements de femme. Dehors, deux ouvriers retournent le jardin. Ils creusent et ils s'arrêtent brusquement.
« Inspecteur ! Inspecteur par ici !»
Leurs pelles viennent de tomber sur des os, des ossements. Belin court, ils s'approchent. Ils vont avoir ce qu'ils cherchent. Les ouvriers creusent encore, ça n'a pas l'air bien grand. C'est un squelette d'enfant, on dirait. D'enfant ? Belin sourcille. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Et si Mais voilà que l'un des deux ouvriers s'exclame.
Il y en a un deuxième!
Un deuxième squelette, de petite taille. Les ouvriers découvrent soigneusement la tête. Ils ont l'air hésitants. Mais voilà qu'un dernier coup de pelle met au jour un troisième squelette. Le docteur Paul s'approche à son tour. Il s'accroupit. Son examen n'est pas bien long.
Au risque de vous décevoir, inspecteur, ce ne sont pas des squelettes humains. Ce sont des chiens. Trois chiens, apparemment.
Déçu, l'inspecteur Belin ? Non. Non, ils viennent de mettre au jour les squelettes de trois chiens. Trois chiens. Les trois griffons de Marie-Thérèse Marchadier. Certainement. Mais ce n'est pas fini. Deux policiers se sont aventurés dans une annexe qui devait servir de garage. Il y a un tas. Un amoncellement de feuilles mortes, on dirait. Mais sous les feuilles...
Inspecteur ! Inspecteur, venez voir !
On dirait des cendres. Beaucoup de cendres. Belin s'approche et le docteur Paul le suit. Belin y plonge les doigts. Il y a quelque chose de dur, on dirait. Il l'a en main. Ce n'est pas très grand. Quelques petits centimètres. Il le tend au docteur Paul qui commente.
Il faudra voir ça de plus près, mais je dirais qu'il s'agit d'un fragment de boîte crânienne, inspecteur.
Un chien ?
Non, un être humain, à première vue.
Des cendres et quelques fragments d'eau. Il y en a aussi dans la cuisine, dans la cuisinière. Une petite cuisinière. Et sous le fourneau, dans la caisse où s'accumulent les cendres, là aussi, des petits morceaux, des fragments de quelque chose qui pourrait être des os. La journée s'achève. Une première journée de recherche. Et les fouilles vont se poursuivre. Plusieurs jours. Belin est de retour à Paris. Rue Greffel. Brandenberger est dans le bureau. Il a toujours cet air joyeux. Un peu goguenard, Brandenberger.
Alors, Belin, cette excursion.
Ils ont avancé, oui. Ils ont quelque chose, plusieurs choses. Les vêtements, les chiens, les ossements. Le docteur Paul a procédé à un examen minutieux des cendres. Il y a des fragments d'eau, mais il y a aussi des dents. Il est formel, à présent. Ce sont des restes humains.
Et vous ne devinerez jamais, mon vieux. Paul est parvenu à déterminer que les ossements et les dents appartiennent à 6 personnes différentes.
6. Les restes de 6 victimes. 6 sur les 11 noms de la liste. La liste du petit carnet noir. Brandenberger s'est laissé aller contre le dossier de sa chaise. Il a l'air de réfléchir. Belin termine.
Alors oui, on peut dire qu'on avance, mais on n'est pas au bout, hein, loin de là. Le docteur Paul a beau être un médecin légiste d'exception, il ne peut pas faire des miracles. Il ne peut pas nous dire à qui appartiennent ces restes.
Landru, il aurait brûlé ses victimes dans sa cuisinière. Mais comment cette petite cuisinière a-t-elle pu réduire en cendres tous ses corps? Il a fallu qu'il les coupe en morceaux avant de les brûler. Et avant, il a fallu qu'il tue. Mais comment? Ils n'ont pas trouvé l'arme du crime. Des crimes. Belin est debout. Il marche. Il tourne en rond, nerveux. Il poursuit avec ses questions.
Le problème, Brandenberger, c'est que nous ne pouvons pas établir avec certitude que les restes que nous avons retrouvés sont bien les restes des femmes, de celles de la liste du carnet noir. Et tant que nous ne pouvons pas faire ce lien, il y aura toujours quelque chose de fragile, vous comprenez? Non, pour l'avocat de Landru, et donc pour les jurés, nous en faut plus. Ah, il faut la preuve qu'il les a tués, nom de Dieu!
Belin ressort. Il doit passer dans le bureau du patron. Brandenberger, lui, reste un moment à réfléchir, adossé à sa chaise. Les mains derrière la nuque. Mais où le mènent ses pensées? Il se lève brusquement, d'un bond. Il tend la main, empoigne un dossier sur son bureau. Il y a l'inventaire des pièces. Le long, l'interminable descriptif de ce qui a été emmené lors de la perquisition, rue Rochechouart. Il tourne les pages, rapidement, fébrilement. Ça y est. Il y est. Des petits feuillets. Avec des comptes. Des comptes, bien sûr. C'est un homme d'ordre, Landru. Et il tient une comptabilité rigoureuse de ses dépenses. Ce sont de petites notes bien droites, bien claires. fine. Billet pour Gambet, train, aller simple, 2,90 francs. Aller-retour, 4,95 francs. Sur les autres feuillets, la même chose. Landru, prévoyant, n'avait acheté qu'un aller simple. Pourquoi acheter un aller-retour quand un aller simple pourra suffire? Brandenberger pianote sur son bureau. Il sourit, il relit, il réfléchit. Un aller-retour pour lui, un aller simple pour elle, évidemment. Landru est un homme prévoyant et économe. Pourquoi payer le prix d'un aller-retour quand on sait qu'il n'y aura pas de retour? C'est Belin qui va être content. Il ouvre la porte et crie dans le couloir.
Belin! Belin, j'ai quelque chose pour vous!
Est-ce que ça suffira? Voilà quelque chose en plus, non? Un petit quelque chose au moins qui témoigne des intentions de Landru. Il faudra se contenter de ce qu'on a. Après des mois d'enquête, il faut bien lâcher le dossier. Le patron, il y veille, oui. Il est toujours derrière Belin.
Belin, vous ne pensez pas qu'on a d'autres chats à fouetter? C'est pour la cour d'assises, ça, maintenant. Au fait, et la bande de Belleville, hein, vous en êtes où?
Nous sommes au mois de novembre 1921, à Versailles, au palais de justice. L'instruction a duré plus de 2 ans. Le procès de Landru s'ouvre enfin. Devant les jurés, il y a la petite cuisinière. On l'attend. Tout le monde l'attend. Le barbe bleue de Gambet. Le sire de Gambet. La presse, le public. Il n'y en a que pour Landru. On veut le voir. On va le voir, oui. Mais surtout l'entendre. Le petit homme, le petit comptable aux 11 victimes n'est pas effacé. Ça non. Il provoque. Il continue de provoquer et de répliquer. À ce qu'il plaisante, Landru. Il fait même de l'ironie. Aux questions que le président lui pose, est-ce qu'il ne répond pas avec le même aplomb, toujours? Sur son petit carnet noir? Sur ses billets de train? Sur sa cuisinière?
Ma vie privée ne regarde que moi, monsieur le président.
Mais Landru n'est pas seul à attirer l'attention. Il est assisté de l'un des plus brillants avocats, l'un des plus grands ténors du barreau de Paris, Vincent de Moreau Jaffery. Il était du procès de la bande à Bonneau. Il défendra bientôt celui sur lequel plane toujours l'ombre de l'erreur judiciaire, Guillaume Sesnec, du tueur en série Weidmann et d'autres, beaucoup d'autres. Bien sûr, il a de quoi le défendre, Landru, bien évidemment. Il se saisit de cette absence, de ses absences, ses 11 victimes. Elles n'ont pas été retrouvées. Disparues, oui, mais assassinées. L'instruction, cette instruction de 2 ans, n'a pas permis de retrouver leurs traces. Il n'y a aucun lien certain entre les ossements et les disparus. Mais est-ce que les jurés n'ont pas assez d'éléments pour se forger une conviction? Est-ce que le petit carnet noir? Est-ce que les vêtements? Est-ce que ces fragments d'os humains, même non identifiés, n'en disent pas assez? Est-ce que ces allées simples pour Gambet ne suffiront pas à les convaincre? Les jurés se retirent pour délibérer. Voilà, il rentre, coupable. Landru est condamné à mort. La fin a lieu un jour de février 1922, le 25 février 1922, un samedi au petit matin, à Versailles, toujours, devant la prison Saint-Pierre. Il est 6h10, le public attend tout autour. La guillotine, la veuve, attend Landru. Maître de Moreau Giafferi, et là, ils ont un moment ensemble. Bref, l'avocat lui demande encore. Il veut savoir. Est-ce qu'il ne veut pas se libérer de son secret, Landru? Une fois de plus, une dernière fois, il est le maître du jeu. Mon secret, je l'emporte. C'est mon seul bagage. Et voilà, c'est fini. Enfin, presque. Un an passe. Landru n'est plus de ce monde, mais il a construit sa légende aussitôt. Nous sommes au mois de janvier 1923, où, dans la salle des assises du palais de justice de Versailles, de retour, Pourquoi je vous y emmène? Je vous y ramène. On ne parle que de ça dans la presse. On vend les meubles de Landru et une partie des pièces à conviction du procès. Des vêtements, les laisses, les trois laisses des chiens, les griffons de Thérèse Marchadier.
Oui.
Et oui, on vend la cuisinière. La cuisinière aux enchères. Elle est adjugée pour 4200 francs. Une somme. À qui? Au directeur du musée Grévin. Landru est entré dans la légende.
La Momière.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour Jérôme de Brouwer.
Bonjour Jean-Louis.
Jérôme, vous êtes historien du droit à l'ULB. Alors ici, on est en train de redécouvrir quelque part un personnage qui est presque une légende, une star, si vous me passez l'expression, c'est Landru.
Oui, sans doute. Mais il y a d'autres personnages extrêmement importants dans ce récit. Pensez à Jules Belin. Jules Belin qui mène l'enquête, c'est aussi celui qui a mis fin, l'un de ceux qui a mis fin aux activités de la bande à Bonneau.
Voilà. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi le docteur Paul.
Oui, le docteur Paul. Alors là, c'est, si vous voulez, la star des médecins légistes et une star des prétoires. Hein. Il intervient dans toutes les cours d'assises, dans toutes les affaires d'assises, depuis le début du XXe siècle, hein, jusque dans l'entre-deux-guerres. Jusque même après la Seconde Guerre mondiale, et il est surnommé l'homme aux 100 000 autopsies. Il est tellement connu que Simenon finit par en faire un personnage dans l'un de ses romans, dans l'un de ses Maigret.
Et en l'occurrence, il joue un rôle décisif dans le dossier Landru.
Oui, pourquoi vous en avez parlé. Hein, dans le jardin de la villa à Gambet, on ne trouve que des fragments d'eau, des cendres. Et il s'agit d'identifier des corps et il s'agit de savoir combien il y en a, combien il y a de victimes éventuellement. Et de distinguer aussi, de savoir s'il s'agit bien de d'ossements humains ou d'ossements de d'animaux. Donc, c'est le docteur Paul qui va vraiment tout mettre en œuvre pour identifier un certain nombre de victimes. Il va parvenir à en identifier de manière certaine 3. Hein, sur les 11, donc ce n'est pas énorme. Enfin, il faut s'imaginer le travail de reconstitution que cela va constituer.
Merci Jérôme, et rendez-vous très bientôt à la même adresse, 36 Quai des Orfèvres.
La Première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.